Mais ensuite, on nous parle du don de la Torah. Les Bnei Israël ont dû se préparer pour recevoir la Torah. On ne peut pas recevoir la Torah sans préparation. C'était une chose absolument incontournable. Il y a eu donc des jours de préparation. Il y avait 2 jours, mais Moshe Rabbeinu en a ajouté un troisième. Et puis voilà, voilà, ils étaient prêts. Ils ont reçu la Torah. Alors, ça s'est passé de la manière suivante. D'abord, il y a eu la parole d'Hachem. Il y a eu les fameuses 10 paroles qui ont été dites par Hachem. Mais au milieu de ces 10 paroles, il y a eu quelque chose qui va jouer un rôle très, très important. C'est que les 2 premières paroles, elles ont été entendues par le clan d'Israël. Mais à l'audition de la première, les Bnei Israël qui écoutaient cela ont été projetés en arrière. Ils sont morts. Ils ont ressuscité. Et les personnes qui ressuscitaient étaient modifiées parce que la parole qu'ils avaient entendue faisait partie d'eux-mêmes. C'est-à-dire quand ils ont entendu Anochi, ils ont entendu Je suis Hachem ton Dieu, etc., qui t'ai fait sortir d'Égypte, etc. Cette conscience était devenue une partie d'eux-mêmes. Quand ils ont entendu la deuxième parole qui est Tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. Donc, il était devenu impossible pour eux d'accepter une autre divinité. Les Aseret HaDibrot, les 10 paroles, forment un tout. On a déjà vu que, on vient indiquer cette idée que ça forme un tout. Juste avant la première des 10 paroles, la Torah dit que Hachem a dit toutes les 10 paroles, mais toutes en même temps. Évidemment, a fait que personne n'a rien compris. Et la question qui se pose, c'est pourquoi il dit quelque chose que personne ne peut comprendre. Alors, c'est dit de cette manière-là pour qu'on sache bien que ça forme un tout. Que dans ces 10 paroles, on ne peut pas venir faire son marché. Ça, je prends et ça, je ne prends pas. On ne peut pas modifier, comme ça a été par la suite modifié par les chrétiens, etc., qui ont modifié les Aseret HaDibrot parce qu'il y avait des choses qu'ils ne voulaient pas pratiquer. Mais ça, c'est impossible. On ne peut pas faire son marché là-bas. Pas venir prendre ça et pas ça. Et donc, si les Bnei Israël avaient continué d'entendre la parole divine, quand à l'audition de la 10e parole, alors tout aurait été. Alors tout aurait été à ce moment-là. Parfait, c'était en quelque sorte la fin de l'histoire. Mais comme vous savez, les Bnei Israël, au bout de la deuxième, ont dit à Moshe, non, ça nous fait beaucoup trop peur, on ne supporte pas d'entendre la parole d'Hachem directement. Qu'Hachem te parle à toi. Et toi, tu nous parles. Donc, ils ont mis Moshe comme intermédiaire. Donc, ils ont entendu les paroles suivantes, de 3 à 10. Ils les ont entendues, eux, de la bouche de Moshe. Moshe les a entendues d'Hachem et il les a répercutées. Mais c'est comme une espèce de transformateur, si vous voulez. De les entendre de la bouche de Moshe, ça ne fait pas du tout le même effet que les entendre directement d'Hachem. Mais d'une certaine manière, ils ont placé Moshe dans une position ambiguë. Parce que quelque part, il est devenu celui qui parlait divinement. C'est-à-dire qu'il parlait au nom. C'est lui qui parle comme si c'est Hachem qui parle. Alors c'est vrai que tout ce que Moshe leur a enseigné, ça venait d'Hachem et on dit même que ça parlait par la bouche de Moshe. Mais ici, ils ont remplacé Hachem par Moshe. Donc ils ont mis Moshe un peu comme une quasi-divinité dans cette affaire. Il y a une ambiguïté, et cette ambiguïté-là, elle peut apparaître, ou elle apparaît pour certains, comme étant la façon, la possibilité du veau d'or. On va y revenir. Ce qui se passe dans cette histoire du veau d'or, il se passe quelque chose d'extrêmement grave, si vous voulez. Pratiquement, c'est une forme d'adultère. D'accord, la kala est sous la... C'est le mariage entre le clan d'Israël et Hachem. Et la kala, sous la choupa, devient adultère. Elle est adultère au moment où elle... au moment de son mariage, en fait. Alors, revenons un peu sur le déroulé de ce qui se passe. On est donc à Sinaï plus 40 jours. C'est-à-dire, on est au moment où les Bnei Israël ont reçu les 10 paroles, comme je vous l'ai dit, 2 directement et les autres de la bouche de Moshe. Ensuite, Moshe est monté sur la montagne Sinaï pour apprendre la Torah. Les choses se présentent comme si la Torah était un espèce de corpus dont il fallait qu'il fallait pouvoir maîtriser. Et là, on nous dit effectivement que pendant 40 jours, Moshe a essayé d'apprendre. Il apprenait et il oubliait. Il apprenait et il oubliait. Et finalement, au bout de 40 jours, Hachem lui a donné la Torah. Donc, il a fait 40 jours d'efforts, en fait. Mais finalement, la Torah a été donnée par Hachem à Moshe Rabbeinu. Alors, ce qui va se passer dans la façon dont le veau d'or arrive dans l'histoire, il arrive parce qu'il y a un problème de temps. Moshe avait dit au Bnei Israël qu'il partait pour 40 jours, et il y avait une discussion, est-ce qu'on compte le jour du départ, on ne compte pas, est-ce que c'est on compte le jour, la nuit, enfin, il y avait une ambiguïté. Et les Bnei Israël se sont trompés, et est arrivée la fameuse sixième heure, 40 jours plus la sixième heure, il devait arriver, et il n'est pas arrivé. Pas arrivé parce qu'il n'arrive, en vérité, il n'arriverait que le lendemain. Il y a un mot qui est utilisé dans ce contexte, au début de ce chapitre 32, le premier passouk du 32, passouk dit, la paracha, juste avant, il est dit, Vaiten el Moshe, kechaloto le daber ito, Hachem a donné à Moshe, après avoir terminé de parler avec lui, Har Sinaï, sur le mont Sinaï, il lui a donné Shnei Luchot HaEdut, les 2 tables, sont appelées les tables de témoignage, parce qu'on en avait parlé déjà. Luchot Even, c'était les tablettes de pierre, 2 tablettes de pierre, Ktuvim Be'ezba Elokim, écrites avec c'est l'image, le doigt d'Elohim. Voilà, Hachem lui donne ça, il est donc, Moshe est sur le Sinaï quand il reçoit cela. Et l'ayant reçu, il est censé descendre et donner les Luchot au Bnei Israël. Mais en bas, pendant que Moshe est en train de recevoir ses Luchot, au pied du Sinaï, Vayar Ha'am qui boshesh Moshe, la redet minar. Le peuple a vu que Moshe tardait. Ce mot de boshesh, il n'existe nulle part ailleurs que ici dans la Torah. C'est un mot particulier, boshesh, qu'on traduit par il a tardé. D'après eux, il a tardé. D'après le compte que l'Ibn Israël faisait, Moshe était en retard. Et du coup, il est évident que Moshe ne peut pas être en retard. Ça n'a pas de sens. Donc, le peuple, quand il n'était pas à l'heure, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver de lui. Mais justement, le peuple s'est rassemblé autour d'Aaron et ils lui ont dit « Koum ». Donc, ils lui ont dit « Lève-toi ». Ça veut dire « Mets-toi au travail ».« Assez l'anou Elohim ». Fais-nous, ici le mot Elohim, Echol, ça veut dire, on peut l'entendre par des dieux, un dieu, peu importe. Asher Yelchou, là, on voit très bien que c'est un pluriel, donc. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, qui marcheront devant nous. Pourquoi ? Qu'ils aient, car celui-ci, ce Moshe, Aïch, l'homme, Asher est là, nous mérites Mitzrayim, qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Lo yadanu me haya lo. Nous ne savons pas ce qui lui est, celui qui est, ce qui est advenu de lui. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce verset. Alors, il y a d'abord ce fameux Boshesh. Il y a une lecture, disons, d'après le Boshesh, on peut lire Bashesh, la sixième heure est arrivée, et Moshe n'était pas là. Ce mot de Boshesh, dans toute la Torah, il n'existe pas. Dans le Sefer Shoftim, dans le livre des juges, il y a deux occurrences. Rashi dit sur ce verset, Rashi dit Kitargumo, Boshesh, il faut l'entendre comme dans le Targum, comme dans Onkeles, comme dans la traduction en araméen, c'est la Shon Ichur. Il est en retard. Et là, Rashi ramène les références de Sefer Shoftim. Et il explique que Kshala Moshe Lahar, quand Moshe est monté sur le Sinaï, Amar Lahem le Sof Arbaim Yom Aniba. Au bout de 40 jours, dans les 6 heures, je reviendrai. Kisfurim hem sheoto yom sheala minaminyanu. Eux, ils ont pensé que le compte des 40 jours commençait, on compte 1, le jour où il est monté, même qu'il soit monté à 11 heures du matin. On dit un jour, voilà, au coucher du soleil, un jour est passé. Ça, c'est ce qu'eux pensaient. C'est pour ça qu'ils l'ont compris. Ou Amar Lahem, Shlemim. Mais Moshe leur disait, il y aurait 40 jours pleins. Mais etlet, c'est-à-dire s'il est parti à 11 heures, je reviens à 11 heures. C'est-à-dire 40 jours complets. C'est-à-dire 40 jours et 40. Et donc, chacun de ces jours vient avec la nuit qui lui correspond. Mais comme le premier jour, il est monté 2 jours, il n'y avait pas la nuit du jour en question. Donc ce jour ne peut pas compter parce qu'il n'est pas complet. Moshe, comme vous savez, il est monté le jour où on a reçu la Torah. On a reçu la Torah le 6 Sivan. Il est monté le 6 Sivan, mais 2 jours. Et donc, au bout de 40 jours, ça correspond au 17 Tammuz. Et justement, le 16 Tammuz, un jour avant, Ba Satan virbev et haolam. Satan est venu, il a bouleversé le monde. Vera dmut krocherva fela virbuvia. Et il a fait un mélange de jour et de nuit, une espèce de brouillard. Lomar vadai met Moshe. Pour dire le monde est en deuil quasiment, c'est sûr que Moshe est mort. C'est pour ça que tout est chamboulé. Donc, et il leur a dit que Moshe était mort. Tout ça, ils l'ont entendu parce que la 6e heure était passée. La 6e jour du 39e jour, en fait, d'après Moshe. On ne peut pas dire autrement, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont fait avoir par le Satan. Le Yetzirah leur a raconté des histoires. Et ils ont dit, du coup, ils sont allés chez Aaron, qui était le deuxième personnage, celui qui était avec eux durant tout l'exil égyptien. Ils sont allés chez lui. Ils lui ont dit, fais-nous des divinités. Ça veut dire qu'en fait, les Bnei Israël ici, ils expriment quelque chose. Ils expriment que ils sont encore attachés au mode de pensée égyptien. Ils sont encore attachés à un polythéisme. Et il le justifie en disant qu'Izé Moshe Haïch. Zé, c'est toujours dans la Torah, c'est toujours quelque chose qu'on montre du doigt. Oui, qu'est-ce qu'il y avait à montrer du doigt? Le Satan, il leur a fait croire, une hallucination collective, et comme s'il y avait le cercueil de Moshe, voilà. Le cercueil de Moshe, donc, c'est ce truc-là, ça, c'est le cercueil de Moshe. Alors, quelle doit être la fonction de ces divinités? Remplacer Moshe. Donc, vous voyez, on va remplacer Moshe par des divinités. Ça veut dire, il y avait chez, dans leur perception de Moshe, parce qu'ils ont fait jouer un rôle ambigu à Moshe, pour eux, qui était quelque part, on ne peut pas remplacer Moshe par quelqu'un d'autre. Mais on va le remplacer par des divinités. Si on le remplace par des divinités, c'est qu'on le prenait pour une divinité. Lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Je l'ai appelé. Je peux rien faire. Elle est sur la liste. Je l'ai appelé. Je suis désolé. Il était appelé de même que Elle t'a appelé en même temps que l'autre. C'est Saskia que j'ai appelé, il y a Muriel aussi. Donc Moshe nous a montré le chemin pour sortir d'Égypte. Et maintenant, on a besoin de divinités qui marchent devant nous pour nous montrer le chemin. Donc c'est ça le processus qui mène au veau d'or. Le Hamek d'Avar, bon, je ne vais pas entrer maintenant là-dedans, mais si vous pouvez le regarder, le Hamek d'Avar, il met en rapport Boshesh avec le Velo It Boshashu. La Torah, elle décrit au moment de la faute d'Adam Harishon. Elle dit que Adam et Chava étaient nus, ils étaient dénudés, sans vêtements, ils n'avaient pas besoin de vêtements, il n'y avait pas de Yetzer Hara à ce moment-là. Et Veloïd Boshashu, et ils n'étaient pas honteux de leur nudité, parce qu'il n'y a pas de raison d'être honteux, de façon idéale, d'être honteux de la nudité. Donc, quelque part, le Hamek d'Avar, il met en rapport de nouveau la faute du veau d'or avec la nudité de Adam et Chava. C'est cette nudité faisait comme il n'avait absolument aucune honte de tout ce qu'il faisait. Et donc, c'est là la fameuse histoire que le Nahash, il les a vus et il a eu du désir, etc. Donc ici, c'est le même genre de faute. Donc, il y a eu une hallucination collective et ils ont vu Moshe entre ciel et terre. Ils ont vu, ils ont cru voir, évidemment. On peut entendre ici que l'Ebné Israël était dans un. Il ne faut pas oublier que le clan Israël, il faut le considérer à ce moment-là. Il vient de sortir d'Égypte. On est à 50 jours de la sortie d'Égypte, plus 40 jours, on est à 90 jours de la sortie d'Égypte. Donc le clan Israël doit être considéré un peu comme un petit enfant, en fait. Et donc l'absence de Moshe, elle peut être comparée à l'absence de la mère pour un nourrisson. OK. Donc comme on a vu, il cherche un substitut de Moshe et le fameux veau d'or va jouer ce rôle de substitut de Moshe. Il y a une forme d'idolâtrie de Moshe Rabbeinu. Le Meshech Chochma, sur le passouk, qui est dans le passouk 19 du chapitre 32, le Meshech Chochma, dans le passouk, il est dit, quand Moshe Rabbeinu s'est approché il est descendu de la montagne, et il s'est approché du camp des Bnei Israël, Vayar et à Egel ou Mcholot, il a vu autour du Vaïchar af Moshe s'est mis dans une grande colère et il a jeté les tables et il les a brisées au pied de la montagne. Donc, je vais vous lire ce que dit le Mesher Chochma ici. Ainyan, le sujet c'est « Atorah va'emuna ema ikare ha'uma israélit » La Torah et la confiance en Hachem, ce sont les fondements de la Torah, enfin de c'est les fondements du peuple juif en fait. Et toute la Kedusha d'Eretz Israël, par exemple, la Kedusha d'Yerushalayim, la sainteté de ce qu'on appelle la sainteté de la terre, la sainteté d'Yerushalayim, et ma praté ou snifé à Torah. Et non, ça n'a pas de sainteté par soi-même. C'est juste, c'est seulement la Torah qui leur donne une certaine sainteté. C'est pour ça que la Torah, elle ne dépend pas d'un lieu précis ou d'un temps précis. La Torah, elle s'applique en Eretz Israël, elle s'applique en dehors d'Eretz Israël aussi, elle s'applique. Elle s'appliquait au moment du Sinaï, elle s'applique aujourd'hui encore. Et donc, effectivement, la Torah, elle concerne aussi tous les Juifs, en fait, que ce soit le plus grand de tous les plus grands, c'est-à-dire Moshe, qui est appelé Ish Elohim, qui est l'homme d'Elohim, il est l'homme de Dieu, si vous voulez, mais ça s'applique de la même manière au dernier des citoyens, au dernier des Juifs. La Torah, elle ne considère Moshe Rabbeinu que comme un intermédiaire, simplement. Mais la Torah ne lui accorde pas une importance autre que celle qu'elle accorde à Monsieur Tout-le-Monde. Donc, toute la réalité, tout ce qui existe ne dépend que d'Hachem. C'est pour ça que on les a avertis, les Bnei Israël, au moment de la faute du veau d'or, on leur a dit qu'en fait, c'est avant la faute du veau d'or, mais ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas le droit de faire une quelconque représentation, une quelconque image d'Hachem. Et donc, nous sommes tous les serviteurs d'Hachem. Et toute cette idée de l'idée qu'il faut faire couler du sang, l'aspersion de sang, etc. Tout ça, c'est simplement une concrétisation. Mais les valeurs sont complètement abstraites, si vous voulez. Donc, quand les Bnei Israël ont vu que Moshe ne revenait pas, dans leur émouna, dans leur confiance, ils ont dégringolé. Et du coup, ils ont tout de suite voulu le fameux veau d'or. Ils ont tout de suite voulu donner existence à cette chose purement matérielle en disant que cette chose-là, ce veau-là, était le support de la divinité. Et que c'est lui qui s'occupe du monde. Et que c'est lui qui les a sortis d'Égypte. C'est là-dessus que mon cher Abénou s'est mis en colère contre eux. Il leur a dit, est-ce que vous imaginez qui ani inyan veizuk dusha bilti mitzvat Hashem? Est-ce que vous imaginez que sans ordre d'Hachem, je suis quoi que ce soit de particulier? Point que quand je ne suis pas là, vous fabriquez un veau d'or pour me remplacer. Je suis un homme comme vous. La Torah, elle ne dépend pas de moi. Si je n'étais pas là, la Torah, elle serait ce qu'elle est. Elle n'aurait pas changé du tout. La preuve, c'est, elle va venir après, mais en fait, la preuve, elle est que pendant les 38 ans dans lesquels les Bnei Israël se sont promenés dans le désert avant d'entrer en Eretz Israël, le Hachem n'a pas parlé à Moshe. Il ne lui a jamais parlé pendant tout ce temps-là. Parce qu'Hachem lui parlait par le mérite du Klal Israël. Il parlait au Klal Israël à travers lui. Mais puisque le Klal Israël ne méritait pas d'entendre la parole d'Hachem pendant ces années-là, alors Moshe non plus n'entendait rien. Surtout ne vous imaginez pas que le Beth Amikdash ou que le Mishkan, que le tabernacle sont saints, sacrés par eux-mêmes. Alléluia. Même réside parmi ses enfants, parmi les Bnei Israël. Mais et si les Bnei Israël rompent, trahissent l'alliance avec Hachem, ils n'ont aucune Kedusha. Les Bnei Israël n'ont aucune Kedusha, aucune sainteté, ils n'ont rien de particulier. Donc ils sont à la merci de n'importe qui. Il peut entrer dans le Saint des Saints, il peut entrer avec une prostituée, etc., et il ne lui arrive rien du tout. Parce qu'il n'y a plus de Kedusha dans le Beth Amikdash. Et pourquoi il n'y a plus de Kedusha? Plus de Kedusha parce que les Bnei Israël se conduisent de telle sorte qu'il ne peut plus y avoir de Kedusha dans cet endroit-là. Les louchot, les fameuses tables qui sont écrites avec le doigt d'Elohim, elles n'ont aucune kedusha. C'est pour vous, elles ont une kedusha. Vous devez les traiter avec, en tenant compte de la kedusha, mais elles n'ont pas de kedusha par elles-mêmes. Et quand la mariée est adultère sous la choupa, les tables deviennent des morceaux de pierre quelconques. Elles n'ont aucune kedusha par elles-mêmes. Bishvilchem shatem shomrim otam. Quand vous respectez ce qui est écrit sur les tables, alors elles ont de la kedusha. Mais n'ont pas de Kedusha par elles-mêmes. Ça, c'est très important parce que je crois qu'aujourd'hui encore, les gens doivent. Il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui doivent entendre des choses comme ça. Et c'est le Meshech Chochma, c'est le Orsamer, c'est la Meir Simcha de Dvinsk, c'est une. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Une superstar, juste avant la guerre. Un des tout grands maîtres. Sauf d'avoir, si on résume, En shum inyan kadosh baolam, il n'y a rien de sacré, rien qui ait une quelconque sainteté dans le monde, qui mérite qu'on le serve et qu'on se prosterne, etc. Il n'y a que Hachem qui est Kadosh, et il n'y a qu'à lui qu'on peut adresser des louanges, et il n'y a que lui qu'on peut servir. Et toute cette Kedusha, toutes ces Kedushot, en fait, elles viennent de ce que Hachem a ordonné, construisait un Mishkan, apporter des korbanot. De nous-mêmes, ça n'a aucun sens. C'est parce que Hachem kidushanu bemitzvotav, Hachem nous a donné de la kdusha, sous quelle forme? En nous donnant des mitzvot. Hachem a dit comment il voulait être servi, si on peut parler comme ça.
Rav, s'il vous plaît.
Oui.
Pourquoi on impute à tout le peuple d'Israël la faute du Vaudor lorsque ce n'est qu'une minorité qui l'a portée?
Parce qu'il y a ceux qui ont agi et il y a ceux qui ont soutenu et qui n'ont pas réagi. Ils auraient dû, comme vous dites, c'est une minorité, hein, ils auraient dû réagir et ils auraient dû empêcher cette minorité de se conduire de cette manière-là.
Alors, ça veut dire qu'ils sont aussi coupables que ceux qui l'ont
fait. Ils sont coupables, tout le monde est coupable, ils ne sont pas passibles de mort, mais ils sont coupables. Ils ne sont pas passibles de passer au fil de l'épée. Il n'y a que les 3000 qui ont été passés au fil de l'épée. Eux, c'était ceux qui étaient vraiment les meneurs, si on peut parler comme ça. Ou... Les autres ont suivi et ils ont au mieux pas réagi. Et c'est une grande faute. On a une responsabilité. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Alors des fois, tout ce qu'on peut faire, c'est crier. On n'a pas obligatoirement les moyens d'arrêter les gens, mais là, en l'occurrence, comme vous dites, il n'y avait que 3000 personnes. Il était tout à fait possible de les empêcher de faire ce qu'ils voulaient faire. 3000, il y était les autres. En tout, il y avait 600 000 adultes.
Donc, le Satan, il a trompé tout le monde ou bien il a trompé qu'une
l'hallucination,
minorité?
L'hallucination, elle a marché pour tout le monde. Mais là, on voit les choses. Mais d'un autre côté, même quand tu vois certaines choses, tu peux pas, si vous voulez, de s'être imaginé que Moshe était peut-être mort. OK, il est mort. Bon, on va voir ce qu'Hachem va nous dire. Mais on va pas remplacer Moshe par une divinité. Et, si vous voulez, il y a les faits. Et même si je considère cette hallucination collective comme un fait, et puis, à ce qu'on en déduit, qu'est-ce qu'on en fait après? L'interprétation, le commentaire, si vous voulez. C'est ça, le grand problème, c'est la plupart du temps, c'est le commentaire. Les choses en elles-mêmes, bon, elles sont ce qu'elles sont, ou elles sont ce qu'elles paraissent être. Mais il y a des règles. Toute l'histoire de Acher, de Elisha Ben Abouya, il a vu des choses. Ok, il s'est trompé, ou c'est vrai que le fameux Métatron là-bas, il l'a trompé un peu, je ne vais pas entrer maintenant là-dedans, pour celle auquel ça dit quelque chose, mais seulement le problème, c'est les conséquences qu'il a tirées. Là, c'était faux, parce que la Emouna te dit le contraire. Rabbi Akiva, ces quatre-là qui sont entrés dans le Pardès, il leur a dit: vous allez voir de l'eau, ne dites pas que c'est de l'eau. C'est une hallucination, vous allez voir, il y a un marbre, quand on marche à côté de ce marbre-là, on a l'impression que de l'eau coule à côté de vous. Donc vos sens vont vous tromper. Mais votre émouna, résister. Oh, mes sens me disent quelque chose, mais mon émouna doit être plus forte. Vous voyez ce que dit le cher Chochma ici? Ce sont les conséquences qu'ils ont tirées. Ok, ils ne pouvaient pas. Le Satan, il leur a fait miroiter ça. Ok, c'est vrai. Mais les conséquences qu'ils ont tirées sont contraires à la émouna. C'est la raison pour laquelle dans le Aaron, dans la fameuse, ce qu'on appelle, c'est la boîte qu'on appelle Arche de l'Alliance. C'est une boîte, hein, c'est une boîte, comme on a vu la semaine dernière, les semaines dernières. C'est une petite boîte, une petite armoire, si vous voulez. Il y a que les louchot. Et on a mis un Sefer Torah en plus. Mais les fameux chérubins, etc., tout ça, c'est à l'extérieur. Ce n'est pas du tout à l'intérieur. Ça que dit le Passouk. Vaï Kaacher, quand mon cher Abénou s'est rapproché du camp, Vayar est à Egel ou Mecholot, quand il a vu le veau et il a vu les danses autour de ce. Il a vu l'erreur gigantesque que les gens faisaient comme si c'était certain. Que ce machin allait les guider, etc., les avait sortis d'Égypte. Donc ils n'ont pas du tout, ils ne se sont pas du tout dit, mais peut-être on s'est trompé, peut-être que Moshe va venir. Et tout de suite, ils sont tombés dans les abominations qu'on peut faire dès lors que on adhère à l'idolâtrie. Donc Moshe a jeté les louchot, il les a brisés. C'est-à-dire, il a montré, il n'y a aucune kedusha, puisque vous, les Bnei Israël, vous êtes les lecteurs de ces. Les lecteurs et ceux qui agissent en fonction de ce qu'ils ont lu dans ces louchot. Parce que vous n'êtes plus lecteur de ces louchot. Vous n'êtes plus en phase avec ces louchot, avec ce qui est écrit sur ces louchot. Alors ces louchot n'ont plus de gdoucha. S'il leur avait donné les louchot, qu'est-ce qu'ils auraient fait, dit le Mashiach. Ils auraient remplacé le Hegel par les Louchot. Ils auraient adoré les Louchot. Quand il a brisé les Louchot, il a bien montré que les Louchot n'ont aucun pouvoir. De même que Avraham brise les idoles, pour montrer que ces idoles n'ont aucun pouvoir. Il y a des textes de Gemara, de Mechilta, qui disent que Gam al et amidatam bahar, Neymar ou Belibam yichazvulo. Maintenant, on s'aperçoit, le texte dit, en vérité, quand ils étaient au Sinaï, c'était aussi des menteurs. Quand ils ont accepté, c'était un mensonge. Ils n'ont pas du tout intériorisé Ils se sont d'ailleurs refusés à intérioriser. C'est pour ça que Moshe leur a fait toutes ces démonstrations. Hachem, c'est une initiative de Moshe Rabbeinu. Et Hachem lui a dit, Yashav Kochacha. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne t'ai pas dit de le faire, mais ce que tu as fait, c'est exactement ce qu'il fallait faire.
Rav, j'ai une question.
J'écoute.
Je ne comprends pas comment on dit qu'ils ne sont pas intériorisés. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, Hachem leur donnait 10 paroles avec une puissance incroyable. Et comment on peut penser qu'ils l'ont pas intériorisé? Et comment, quelque part, Hachem, quand il donne sa parole, il sait si elle est intériorisée ou pas par ceux qui la reçoivent?
Il sait aussi quand quelqu'un va pratiquer l'idolâtrie, il le sait. Mais on est libre, on a la Bechira. C'est pas sans conséquence, mais on peut refuser de faire les mitzvot. On n'est pas des robots. On ne devrait pas, mais on peut.
Alors quand on dit qu'ils les ont refusés...
Quand ils n'ont pas accepté de continuer d'entendre la parole d'Hachem directement. Bon, je vous ai dit, quand ils ont entendu... Les choses devenaient une partie d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils étaient transformés par la parole. La parole était tellement claire qu'on était transformés, mais ils ne voulaient pas. C'est comme ça qu'il faut entendre. Ils ne voulaient pas de cela. Et comme ils n'ont pas tout entendu, alors l'effet ne s'est pas fait, c'est-à-dire qu'ils ont été capables de faire le veau d'or, bien qu'ils aient entendu et qu'ils aient été transformés par la deuxième parole qui dit tu n'en fabriqueras pas. Comment est-ce qu'ils ont pu le faire puisqu'ils avaient intériorisé? Non, l'intériorisation, elle était là, mais elle était, si vous voulez, en stand-by jusqu'à ce qu'ils acceptent les dix paroles. Parce que ça forme un tout. Pour nous, c'est pas évident. Pour nous, il n'est pas évident que l'otirtsach et Shabbat, c'est la même chose. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais que ça va ensemble. On peut très bien, nous, dans notre tête, on peut très bien dire, oui, bien sûr, je ne vais pas tuer, j'accepte l'interdit de tuer, mais Shabbat, c'est autre chose. J'ai un autre agenda, je passe mon samedi autrement. Et là, du coup, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que si tu n'acceptes pas le Shabbat, alors ton acceptation de « tu ne tueras pas » n'est pas du tout ce que la Torah veut de nous. « Tu ne tueras pas » qui s'adresse au Bnei Israël, ce n'est pas un « tu ne tueras pas » qui se trouverait dans n'importe quel code pénal. C'est autre chose. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'il s'agit de comprendre. C'est ça qu'il y a dans le fait que ça forme un tout. Pas simplement tu ne tueras pas. Le tu ne tueras pas pour des raisons bien précises. Ce ne sont pas simplement que c'est interdit par la loi. Dans tout un programme, en quelque sorte. Et ce programme est complètement intériorisé. Bon, c'est tout ce que... Mais ça, il faut vouloir l'intérioriser, parce que sinon, on aurait été transformé en robot à notre corps défendant. Enfin, si c'était ça, Hachem avait créé des robots au départ. Le but, c'est pas de nous transformer en robot. Le but, c'est que nous comprenions le travail à faire et que nous le fassions. Alors, il y a dans l'erreur des Bnei Israël. Il y a aussi, dit le Meshech Chochma, quand ils ont dit que ce veau allait remplacer Moshe qui était celui qui nous a fait monter d'Égypte. Ils ne sont pas encore arrivés en Eretz Israël, mais il nous a sortis d'Égypte. C'est une erreur. Ça aussi, c'est faux. Ils ont dit Moshe et Elan, Meretz Mitzrayim. Velo Moshe et Elan. Moshe était le chaliar pour parler à Paro. Mais évidemment que c'est Hachem, dans le processus de Hashgacha Pratit, de Providence spécifique pour le clan d'Israël. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'au moment où les Bnei Israël ont fait le veau d'or, Moshe était sur la montagne à ce moment-là et il a reçu les tables. Et à ce moment-là, Hachem a dit à Moshe, « Lech red kishichet amcha ». Il lui a dit, « Descends de la montagne. Ton peuple s'est fourvoyé. » En quoi est-ce qu'ils se sont fourvoyés? Ils se sont fourvoyés parce que Asher Elita Meretz Mitzrayim, quand ils ont dit que c'est toi qui les as sortis d'Égypte. Donc ça veut dire que toi aussi te prenais pour une divinité. Comme si c'était toi, avec ta force divine, sans ma Hashgacha, ils en avaient sorti. Et donc, quand les Bnei Israël, dans le Sefer Bamidbar, une des nombreuses occasions où ils se sont révoltés contre Moshe, ils lui ont dit « Lama elital elitunu, pourquoi nous as-tu fait monter? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ?» Immédiatement, les serpents sont venus et les ont piqués. Regardez Rashi là-bas. Pourquoi ils ont piqué? Parce qu'ils ont dit « Tu nous as fait sortir !» C'est une erreur. Raison pour laquelle le rédacteur de la Haggadah de Pessah s'est arrangé pour ne pas mentionner Moshe dans la Haggadah. Récit, il n'y a pas de mention de Moshe. C'est quand même le... Comment on peut imaginer raconter la sortie d'Égypte sans Moshe? Oui. Et si on raconte, si on dit quoi que ce soit de Moshe... On est capable de s'imaginer que c'est Moshe qui nous a sortis de là-bas. C'est vrai que dans les textes, quand on regarde, si on regarde superficiellement, on a l'impression que c'est Moshe qui fait le travail. Et ça, c'est déjà l'erreur. C'est très fort ce que dit ici le Meshe Chokma. Il l'a amené. Il faut savoir que ça doit être dit et ça doit être entendu. Sinon, on est dans l'idolâtrie, n'est-ce pas? Les Bnei Israël, ils auraient fait des louchot avec les louchot qu'ils ont fait avec le veau d'or, si Moshe leur avait donné les louchot. Ils ont dit, ah oui, ça c'est mieux que le... C'est mieux, c'est... Dans la définition de l'idolâtrie, dans les psukim de la Sereta Dibrot, justement, on parle de Pesel et on parle de Tmouna. Vaisselle en hébreu moderne, c'est une sculpture. Donc, vaisselle, c'est une gravure. C'est-à-dire qu'on a pris un objet, on l'a coupé et on l'a reformé. On lui a donné une forme et une forme qui peut le faire apparaître comme autonome. Ça, c'est ça, une des formes d'idolâtrie, c'est ça. Prendre un objet et le reformer de telle sorte qu'il apparaisse comme autonome. Ça, c'est la gravure. Ça, c'est Pessel. Mais Tmouna est aussi interdit. Une image, c'est un objet qui, en quelque sorte, qui est complètement vidé de tout son être et qui ne sert que pour les êtres humains. C'est une idolâtrie parce que l'objet, en réalité, il est présenté comme séparé d'Hachem. Dans la voix, on a parlé ici du Boshesh. Il était en retard. Mais quand Hachem parle à Moshe, qu'il lui dit, il critique les Bnei Israël, il dit, c'était très rapide, maher. Très rapidement, ils ont basculé du mauvais côté. Ça n'a pas duré longtemps, hein. L'adultère sous la choupa. La question, c'est toujours, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'était possible que les Bnei Israël, quasiment encore au moment du don de la Torah, on est dans le processus où Moshe Rabbeinu est en train de recevoir les Louchot. Moshe est en train d'apprendre la Torah pour l'enseigner aux Bnei Israël. À ce moment-là, donc on n'a pas fini de recevoir la Torah. Quand on dit maher, ça veut dire, bon, c'est vraiment une inconstance. On dit oui à Hachem, puis immédiatement après, ils disent non et ils disent oui à l'idole. Seulement, c'est contradictoire avec ce qu'il dit. Je lis dans le passouk de tête. Dans le passouk 9 du chapitre 32, donc. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, « Raïti et Amazé, j'ai vu ce peuple. Vehine. Voilà, il est kshe oref, traduit par la nuque roide. La nuque roide, c'est justement le contraire de l'inconstance. Alors, c'est quoi l'autre côté, c'est quoi? Si c'est la nuque roide, ça veut dire qu'il y a une fidélité exagérée même. Ça veut dire qu'ils sont encore fidèles à l'Égypte. Ils sont encore égyptiens. Ils ne sont jamais vraiment sortis d'Égypte. Dans le Hegel, il y a à la fois une forme d'annulation de ce qui s'est passé au Sinaï, c'est-à-dire le fameux adultère, mais il y a en même temps une fidélité à l'Égypte. C'est d'une certaine manière, c'est une régression qui est en amont du Sinaï qui, pour eux, n'a pas vraiment existé. C'est ça le côté terrible de l'affaire. C'est ça le Hegel. On pourrait dire un peu la chose de la manière suivante. On a souvent parlé ici de pourquoi est-ce que c'est un Hegel qui est là. Alors, vous vous souvenez, Aaron, quand il a accepté de faire quelque chose, parce qu'il pensait que c'était moins grave de pratiquer l'idolâtrie plutôt que de tuer Cohen Benavi. Bon, ça, c'était une erreur de la part d'Aaron, mais il pensait que c'était moins. Il essayait de sauver les Bnei Israël. Mais il leur a dit, il voulait gagner du temps. Lui, il pensait peut-être Moshe va arriver encore. Mais il ne leur a pas dit. Il faut dire que. En face de lui, il avait des gens qui étaient capables de tuer. Ils ont tué. Celui qui s'est opposé au veau d'or, c'est Hur, le fils de Myriam. Et ils l'ont tué parce qu'il s'opposait au veau d'or. Pourquoi est-ce qu'il est sorti un veau, un jeune taureau en réalité? Yosef avait demandé, il avait dit au Bnei Israël, quand vous sortirez de Mitzrayim, je veux que vous m'emmeniez avec vous et que vous m'enterriez en Eretz Israël. Le Paro, qui voulait empêcher les Bnei Israël de sortir, il a fait sceller au fond du Nil le cercueil de Yosef. Donc, personne ne savait où était ce. Où était le cercueil? On l'a cherché partout, on ne l'a pas trouvé. Alors, c'est la fameuse Sarah Bat Asher, la fille de Asher, qui l'a dit à Moshe, lui a dit où il était. Et Moshe, il a écrit sur une plaquette d'or: Allez, Shor, monte, taureau. Pourquoi? Parce que le taureau, c'est l'emblème de la tribu de Yosef. Il y a des emblèmes de tribus. Par exemple, le fameux loup de Binyamin, le lion de Yehuda, etc. L'emblème de Yosef, c'est un taureau. Et donc, Moshe Rabbeinu l'a écrit, allez, monte, taureau. Il a jeté ça dans le Nil et le cercueil est monté. Et Moshe ne s'est pas occupé de la plaquette en question. Il a pris le cercueil et c'est de ça qu'il s'est occupé. Quelqu'un a ramassé la plaquette, et quand Aaron a dit que tout le monde apporte de l'or, celui qui l'avait ramassé, il a jeté cette plaquette dans le chaudron, et c'est comme ça que allez à la chambre, le taureau est monté. Mais pourquoi ça se passe comme ça? On avait dit que eux, ils veulent remplacer Moshe, dont ils pensent que c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Alors, le seul candidat possible qui pourrait être considéré comme un remplaçant de Moshe, c'est-à-dire quelqu'un dont on pourrait dire que lui aussi, il nous a sortis d'Égypte, il a contribué à nous sortir d'Égypte, c'est Yosef. Parce que Yosef, c'est lui qui a fait descendre les Bnei Israël en Égypte. Et on a déjà expliqué que la sortie d'Égypte, qui est ce moment absolument fondamental dans l'histoire du peuple juif, c'est notre naissance en tant que peuple. C'est écrit 49 fois dans la Torah. Il ne faut pas considérer que la sortie de l'Égypte venait réparer un incident. Ce n'est pas qu'il s'est malheureusement fait que nous étions en Égypte. Et donc, puisqu'on était là-bas en Égypte, on était esclaves, il fallait nous en sortir. Quand Hachem a fait cette alliance, la fameuse alliance des morceaux, Brit Ben Abetarim avec Avraham Avinu, vous vous souvenez, Hachem a proposé à Avraham, il lui a demandé, tu peux choisir ce que tu veux pour ta descendance. Est-ce que tu choisis la mort ou est-ce que tu choisis l'exil, le galout? Choisir la mort, ça veut dire, est-ce que tu veux que ton peuple soit comme la plupart des peuples? C'est-à-dire que, bon, ils vont vivre, ils vont atteindre leur apogée, ils vont ensuite dégringoler, éventuellement disparaître de l'histoire. Mourir. Ou est-ce que tu veux que ton peuple ne monte jamais très haut et que, par contre, la forme de mort, ce sera une mort, c'est-à-dire une presque mort. Presque mort, ça veut dire l'esclavage, ça veut dire la Shoah, ça veut dire le goulag, ça c'est presque mort. Et Abraham a choisi la deuxième solution. Alors la deuxième solution, c'était quoi? C'est que tes descendants vont être esclaves, ils vont souffrir, etc. Mais ils vont en sortir. C'est-à-dire, cette presque mort n'est pas une mort. C'est presque la mort, mais ils vont en sortir. Donc ça veut dire que descendre en Égypte, c'était pouvoir en sortir. L'important dans la descente en Égypte, c'est que toute la descente n'était là que pour qu'on en sorte. Il fallait qu'on sorte de l'Égypte. Il fallait qu'on sorte de la mort. Qu'on naisse en ayant la mort derrière nous. Le Klal Israël, il n'a pas la mort devant. La mort, par la forme de mort qu'il avait, elle est derrière lui. Et donc, on est descendu en Égypte pour en sortir. La descente était au service de la sortie. Et donc, on peut dire que Yosef a participé à la sortie, puisque c'est lui qui nous a permis de pouvoir sortir. Pour sortir, il fallait y entrer d'abord. Ça, c'est le travail que Yosef a fait. Donc, on peut imaginer, si on doit remplacer quelqu'un parce qu'il a contribué à la sortie d'Égypte, le seul candidat possible, c'est Yosef. Et du coup, c'est l'emblème de Yosef. Le taureau, le veau d'or, c'est l'emblème de Yosef. Et c'est ça qu'ils ont adoré. C'est à celui-là, à lui, qu'ils ont dit, tu nous as sorti d'Égypte. OK. Maintenant, on pourrait dire, dans leur régression, c'est comme si, au lieu de s'occuper de la sortie effective de l'Égypte, d'accord, ils allaient régresser jusqu'au moment de la descente en Égypte. La descente en Égypte, c'est bien le début de la sortie, mais il faut encore, tout est encore à faire. Quand les Bnei Israël descendent en Égypte, ils ne sont pas un peuple. Quand ils sortent d'Égypte, ils ne sont pas vraiment un peuple. Ils ne seront un peuple qu'au pied du Sinaï. Mais il va y avoir quelque chose à la fin de cet exil, esclavage en Égypte. Il y aura la fameuse histoire de l'emprunt chacun va emprunter à l'autre, etc., ce dont je vous ai déjà parlé. Et fabriquer des relations entre les gens. Et le commencement incontournable, en fait. Quelque chose d'incontournable. Pour arriver à être un peuple. Sortir d'un état où on est complètement refermé sur soi-même, fabriquer des relations entre les gens, c'est le commencement de quelque chose qui peut devenir un peuple, ou pas d'ailleurs.
Ralph Bronstein. Et si on vous a parlé d'un échec de la sorte,
Est-ce qu'on peut parler de
d'un échec de la sortie?
Bah, c'est de ça qu'on parle.
Mais c'est-à-dire, cette sortie, finalement, elle n'a jamais eu lieu, puisque quelque part, ils étaient toujours dans un état presque d'immaturité qui leur permettait pas de, qui leur permettait pas de saisir que c'était Hachem qui les avait sortis et pas Moshe. Il y a quand même un,
C'est pour ça qu'il y a eu, d'une certaine manière, un nouvel, non pas exil, mais enfin une non-entrée en Eretz Israël. On s'est promené pendant 40 ans dans le désert, pour que toute la génération en question, tous ceux qui étaient adultes, les hommes adultes, à la sortie d'Égypte et au passage de la mer et à la, au don de la Torah, ces gens-là sont tous morts, sauf Yoshua et Caleb. Donc vous pouvez appeler ça tranquillement un échec. Mais bon, c'est... On a récupéré la sortie d'Égypte. Pour nous, c'est, si vous voulez, vous pouvez dire que la sortie d'Égypte en tant qu'événement, etc., quelque part, elle a raté, mais elle est devenue Torah, et ce récit nous aide. Nous sommes un peuple du récit. Nous, on parle d'un récit de la sortie d'Égypte. Même si concrètement, ça ne s'est pas passé comme Hachem aurait voulu que ça. Enfin, Hachem, Moshe Rabbeinu, Yosef, ça aurait voulu que ça se passe. Et voilà, Hachem dit voilà. Il y a les deux choses, ça veut dire, cette situation dans laquelle ils sont à la fois pas vraiment complètement sortis d'Égypte. Un Midrash qui dit que. Les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, mais dans leur tête, le modèle du monde était un modèle dans lequel le ciel était rempli de divinité. Il y a un Midrash qui dit qu'Hachem a dû ouvrir le ciel pour leur montrer qu'il n'y avait rien de tout ce qu'il racontait dans le ciel. Alors, il y a cette idée, effectivement, une forme d'échec, bien sûr. C'est ça que raconte le Meshech Chochma. On a tendance à raconter les choses de façon comme si c'était un conte de fées, quoi. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc les Bnei Israël ont beaucoup dû travailler et d'ailleurs, il n'est pas du tout certain que les destructions des Bat Hamikdash ne soient pas encore un reste d'idolâtrie, en fait. Parce que qu'est-ce qui... Je l'ai dit souvent, je ne sais pas, en français, on utilise toujours ce... Temple de Jérusalem et tout, je trouve que on devrait arrêter d'utiliser cette terminologie-là. Parce que le Beth Amigdash, c'est pas un temple. Ça n'était pas un temple. Donc le temple, c'est un endroit où on vient et on paye sa cotisation quelque part. Voilà, j'ai payé ma cotisation. Voilà, alors j'aurai droit maintenant, j'ai payé. Donc j'ai droit, je sais pas, à 3 viols et 4 meurtres. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hachem leur dit en permanence, si vous voulez, le fonctionnement du Beth Amikdash, jusqu'à la fin, il était parfait. Les reproches qu'on fait au Bnei Israël, que les prophètes font au Bnei Israël, c'est pas du tout le Beth Amikdash ne fonctionne pas comme il faut. Les reproches, c'est j'en ai rien à faire, dit Hachem, de vos sacrifices, de vos. Mais c'est ce que vous amenez, Shabbat, Rosh Chodesh, etc. Ça me dégoûte. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, vous vous conduisez comme des crapules. Donc c'est insultant pour Hachem de venir faire ce qu'il faut dans le Beth Amikdash Alors qu'à l'extérieur, tu ne te conduis pas conformément à la Torah. Hachem dit, je n'ai rien à faire de tout ça. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash, il n'a pas été détruit parce qu'il ne fonctionnait pas bien. Il a été détruit parce qu'il n'avait plus aucun sens. On dit, il y a un Beth Amikdash dans le monde d'en haut qui, lui, est nourri des mitzvot, de l'étude, etc., des Bnei Israël. Mais à partir du moment où les Bnei Israël ne font pas ce qu'il faut, celui-là, il n'est pas nourri, comme c'est lui qui nourrit le Beth Amikdash d'en bas. En bas, on a une coquille vide. Alors, comme a dit le Messie Chochma, Titus, il peut prendre une prostituée, entrer dans le Kodesh HaKodashim, avoir un rapport avec elle, il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans un truc, voilà, c'est une coquille vide. Il n'est pas du tout entré dans le Kodesh HaKodashim, il n'y avait plus de Kodesh HaKodashim. C'était vide, la coquille était vide. Vous pensez que sinon ça a un sens? Vous pensez que ça a un sens qu'on puisse, est-ce qu'on peut détruire la résidence d'Hachem? C'est un non-sens. On ne peut pas détruire la résidence d'Hachem. Parce qu'on peut détruire ce qui a été la résidence d'Hachem. Oui. Qui l'a détruite, cette résidence? C'est nous. Ce sont les Bnei Israël, par leur conduite. Eux, nous, on est capable de détruire. Parce que nous, on détruit celui d'en haut. Il aurait été beaucoup moins grave de se conduire bien et qu'il y ait des imperfections dans le fonctionnement du Beth Amikdash lui-même, que je ne sais pas, au lieu d'asperger de cette manière-là, on aurait aspergé de sang d'une autre manière. Ça aurait été beaucoup moins grave que ce qui s'est passé avec l'extérieur, ou à l'extérieur, on se conduisait comme des crapules. C'est ça qu'Hachem le reproche. Et ça, on peut dire, c'est encore d'une certaine manière, ils ne sont pas vraiment sortis d'Égypte. Parce qu'ils n'ont pas vraiment accepté la Torah. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont accepté. Donc, Hachem, sinon, on n'aurait même pas survécu, probablement. Donc, Hachem, il y a des gens qui ont survécu. Qui ont survécu, qui font qu'on est encore là. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ce qu'il fallait. Mais à l'échelle du clan, la Gemara, elle dit que toute personne du vivant de laquelle le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit de son vivant. Ça veut dire que nous sommes encore dans une situation où nous méritons que le Beth Amikdash soit détruit. Qu'on ne mérite pas qu'il soit construit. D'accord? Ça le dit bien plus fort. On mérite qu'il soit détruit. Donc il y a une mauvaise fidélité, une espèce d'émouna à l'Égypte. Fidélité à l'Égypte, ça c'est la fameuse nuque roide. Et puis il y a une inconstance qui est que la Kala sous la Choupa, elle est capable d'être adultère. C'est ça la faute du Vaudor. Et à ce moment-là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu quelque chose d'étrange. Hachem dit, je vais détruire le clan d'Israël. Ça veut dire que c'est un échec complet. Il n'y a plus rien à faire. Plus rien à faire. Vous entendez? Il n'y a plus rien à faire. Hachem a décidé de le détruire. Seulement, il parle à Moshe et il dit à Moshe, laisse-moi, je vais le détruire. Alors, le Midrash dit que mon cher Abbé nous dit que ça veut dire laisse-moi. Je peux t'en empêcher? Je t'en empêche? C'est à cause de moi que tu n'oses pas le détruire? Tu n'arrives pas à le détruire? Donc, Moshe a compris qu'il y avait une possibilité pour lui d'empêcher la destruction. On lui a commencé par dire que Hachem lui proposait d'être lui un fondateur d'un nouveau clan d'Israël. Donc, c'est allé jusque-là. Hachem a dit, je détruis le peuple et je recommence avec toi. Et Moshé a dit, je ne suis pas partant. Si tu ne leur pardonnes pas, alors tu peux m'effacer de ton livre. Et Hachem a cédé. Hachem a pardonné. Alors, on a l'habitude de dire, quand on entend Hachem a pardonné, ok, ça veut dire, voilà, on recommence à zéro. Mais le Gaon de Vilna dit que ce n'était pas un pardon, c'était un sursis. On peut pas. La peine de mort qui a été prononcée, elle ne peut pas être annulée complètement. Donc c'est en sursis. Et le problème, c'est qu'avec l'histoire des explorateurs, le sursis est tombé. Mais Hachem, au lieu de détruire tout le peuple, il a détruit toute la génération des hommes adultes qui sont sortis d'Égypte et qui ont reçu la Torah, à l'exception de Caleb et de Yoshua. Et pas pour cette raison, mais ni Moshe ni Aaron n'ont survécu non plus. Bon. Durant les 40 ans, toutes les années, une partie des gens mouraient. Et c'est seulement après qu'on est entré en Eretz Israël sous la direction de Yoshua. Bon, il faut juste que je précise que les circonstances, que les femmes ne sont pas mortes. Je vois qu'il y a des sourires. J'aurais dû vous le dire au début, vous aurez tous sourire tout le long. Mais ouais, les femmes sont. Les femmes n'ont pas ne voulaient pas participer au veau d'or. Midrash dit que, je rapporte, que les femmes ne voulaient pas donner l'or. Les hommes ont arraché l'or, les femmes. Arraché les bijoux, ils l'ont jeté dedans. Toujours ce problème de d'où les femmes prennent-elles cette clairvoyance, en fait. C'est quand même important. Tous les maris, tous les hommes sont acquis à cette idée. En tout cas, ils ne sont pas suffisamment opposés. Elles, non. Et c'est la vérité, puisque c'est Hachem qui a décidé comme ça. Le problème de la émouna des femmes, c'est tout un sujet. Elles ont plus d'émouna. De tous les galouyotes, ce sont toujours les femmes qui ont sorti les Bnei Israël des exils. Toujours grâce à leur mérite, à elles. Bon, je ne vais pas en dire plus, c'est quand même pas exagéré. Voilà, on s'arrête là. Alors, bonne semaine. On peut dire Shabbat Shalom maintenant.
Merci Rav. Shabbos.
Merci. Shabbos.